Rayon Libre sur Cause Commune.
L'idée, c'est que toutes les personnes qui peuvent faire du vélo le fassent. Et il y a encore de la marge. Hein.
Je pense que le vélo, c'est tellement un outil qui rend libre.
Rayon Libre, présenté par Jérôme Sorel sur Cause Commune.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Rayon Libre, cette émission est en direct et cette semaine on va parler de l'extraterrestre, de l'ultra-distance, Victor Bozzoni. Mais avant d'évoquer l'ultra-distance, le vélo est une chance, merci pour votre fidélité, vos messages, vos suggestions et vos commentaires. Merci aussi pour vos likes sur les réseaux sociaux et sur les différents podcasts. Merci à vous qui êtes fidèles au poste, à ce rendez-vous radiophonique et à ce podcast Cause Commune, toujours une radio libre et associative, un projet, un collectif de bénévoles qui fonctionne à l'énergie et l'envie de prendre les ondes pour donner la parole, pour diffuser de bonnes ondes justement. Pour réussir à tenir, on a besoin de vos dons, filez sur le web cause-commune et suivez le guide, chaque don compte. Le vélo est une chance, ne le laissez pas passer. Voilà la nouvelle façon de conclure cette émission. Depuis septembre 2020, je conclue chaque émission avec cette formule. N'oubliez pas, une journée sans pédaler est une journée gâchée. J'aimais bien cette formule, je l'aime toujours, comme si réussir sa journée ne tenait qu'à un petit ou long moment sur une bicyclette. Pour moi, c'est assez vrai, ce n'est pas une vérité absolue. Il m'arrive d'avoir des journées gâchées, même si je pédale, d'avoir des journées heureuses sans pédaler. Un moment à pédaler, d'ailleurs, pour moi, c'est l'assurance d'un moment à moi, un moment de légèreté ou de réflexion, un moment de découverte, une parenthèse. J'ai bien d'autres façons de m'offrir des parenthèses dans ma journée. Pédaler reste pour moi une valeur plutôt sûre. Le défaut de cette formule, une journée sans pédaler est une journée gâchée, elle évoque une vérité principalement comprise et admise par les convertis, celles et ceux qui pédalent, à celles et ceux qui aiment pédaler. Elle sonne comme une vérité peu concernante pour celles ou ceux qui ne pédalent pas, ou celles et ceux qui n'aiment pas pédaler. Ça arrive de ne pas aimer pédaler, on a le droit. Ça arrive et on a le droit de ne pas avoir envie de pédaler, de penser qu'on a mieux à faire. Je n'ai pas vérifié, j'imagine qu'à peu près depuis septembre 2020, depuis à peu près 239 émissions, je vous annonce au micro pour conclure l'épisode du jour. N'oubliez pas, une journée sans pédaler est une journée gâchée. Je travaille à préparer une conférence sur le vélo qui se tiendra demain. J'ai eu une illumination. Le vélo est une chance. On a de la chance de pouvoir pédaler, de choisir de ne pas pédaler. On a de la chance de savoir pédaler. On a de la chance de pouvoir décider que le vélo n'est pas une solution. Le vélo est toujours une solution à une crise, peu importe la teneur de la crise, financière, pétrolière, sanitaire, guerre, climatique. Le vélo n'est bien sûr pas l'unique solution. Par contre, elle est la seule solution à être aussi universelle. Alors oui, je crois que le vélo est une chance, et il serait dommage de ne pas l'enfourcher. Voici donc ma nouvelle conclusion à Rayon Libre. Aujourd'hui, on va causer ultra-distance, on va causer sommeil, matériel, préparation, on va causer de chance aussi. Victor Bozzoni est le nouveau petit prince de l'ultra-distance, une nouvelle star dans le milieu, et pourtant il reste terre à terre, on va vérifier ensemble. Et alors, pour tout vous dire, Victor Bozzoni, j'essaye de le joindre depuis que j'ai lancé cet édito, et je n'arrive pas à l'avoir, donc vous allez être en direct, tout à fait, et vous allez voir ce qui se passe, si quand je l'appelle, il répond ou pas. Donc voilà, vous êtes toujours sur Rayon Libre, Cause Commune. En attendant d'avoir Victor, je vais lancer la pause musicale, et oui, il faut s'adapter.
Don't miss
Vous êtes toujours sur Cause Commune, Rayon Libre 93.fm. Et voilà, vous êtes avec Jérôme Sorel en direct. Les joies du direct. J'essaye de joindre Victor, que je n'arrive pas à joindre. Ah, voilà, il me rappelle, je crois. Hop. Oui, Victor, eh ben on est en direct. Je vous mets en ligne tout de suite. Est-ce que vous m'entendez, Victor ?
Oui, je vous entends.
Eh ben moi aussi, et nos auditeurs et nos auditrices vous entendent aussi, c'est parfait. Eh ben on a mis la musique en attendant, merci de me rappeler Victor. Alors Victor, vous n'avez pas entendu l'édito, mais néanmoins je parle de chance, le vélo est une chance, et pour la première question que j'ai envie de vous poser, Victor, est-ce que vous considérez le vélo comme une chance ?
Oui, pour moi c'est une vraie chance, parce que ça nous permet de, d'avoir une certaine liberté que d'autres n'aurait pas. Pour moi, ça me permet aussi de me connecter aux autres, de me connecter à moi-même et à me comprendre encore mieux. Et pour moi, c'est tout ça le vélo.
Comment vous vous êtes mis au vélo ? Quel a été le déclic ? C'est une histoire familiale ?
Pas tant, même si mon père, c'est mon père quand même qui nous a mis au vélo. Depuis que je suis petit, je fais du vélo, mais du vélo pour voyager, pour me déplacer dans mon village, pour explorer un peu les alentours. Mais c'est vrai que mon père a été vraiment important là-dessus.
Il a été important là-dessus. Alors ce que je disais aussi, dans mon introduction, on vous présente comme le nouveau petit prince de l'ultra-distance. Est-ce que je peux vous demander votre âge, Victor ?
J'ai 23 ans, je vais avoir 24 le 27 septembre.
Eh bien, on pensera à vous le 27 septembre. Et quand vous pédalez pas, qu'est-ce que vous faites, Victor ?
Là, en ce moment, je travaille. Je suis en intérim. J'ai choisi ce travail pour avoir une partie de la journée de disponible, même si c'est très demandant, parce que je travaille quand même en 39 heures. Donc, je commence très tôt le matin à 4h45, 5h, et je finis assez tôt à 13h. Et ensuite, je peux aller faire du vélo et faire ce que j'aime le plus.
Oui, donc ça veut dire que votre vie professionnelle, vous l'avez organisée en fonction de votre passion et de votre envie de pédaler, et non pas l'inverse.
Voilà, c'est ça. J'ai mis toutes les chances de mon côté pour être le meilleur sur le vélo, on va dire, et puis aussi pour m'offrir des opportunités dans le futur pourquoi pas partiellement en vivre un jour.
Alors peut-être qu'il faudrait quand même commencer par là. Je vous ai présenté un peu succinctement, Victor, mais je pense que c'est important que vous le disiez vous-même. Vous avez enchaîné quelques victoires sur des courses qui sont pas des légendes, mais des courses qui comptent vraiment dans le petit monde de l'ultracyclisme. Vous avez remporté la TCR, c'est ça notamment ?
Oui, j'ai remporté la Transcontinentale qui est la plus grande course en Europe dans cette discipline. C'est entre 4000 et 5000 kilomètres à travers l'Europe. C'est considéré comme la plus grande, la plus mythique des courses. C'était déjà un rêve pour moi d'y participer.
Ouais.
C'est une consécration de pouvoir la remporter.
Et pour bien expliquer à nos auditeurs, auditrices qui sont dans le monde du vélo d'une manière générale, mais ça peut être du vélo taf, ça peut être du cargo, ça peut être tout plein de choses, qu'est-ce qu'elle a de si spécifique, cette course ? Donc c'est ce que vous disiez, 5000 km, celle que vous gagnez, vous partez de Saint-Jacques-de-Compostelle, si je me souviens bien, et vous arrivez à Constanza, 5000 km. Ouais. C'est quoi les règles ?
Alors les règles, elles sont simples, c'est être en autonomie totale. Mmh. Donc on doit ne pas avoir d'assistance extérieure. Donc même des coureurs, des concurrents, on n'a pas le droit d'être dans les roues. On doit rouler tout seul, vraiment se débrouiller tout seul de A à Z. On n'a même pas le droit d'accepter des cadeaux de la part de Todd Watcher, les spectateurs de la course.
Ouais.
Et en fait, on doit en fait relier 4 ou 5 checkpoints durant la course.
Donc ça veut dire, juste pour bien expliquer aux auditeurs auditrices, 4 ou 5 checkpoints, c'est-à-dire que vous avez des points de passage obligatoires qui sont ouverts sur un laps de temps que vous devez rallier, mais pour y aller, vous choisissez la route absolument que vous voulez, tant que vous êtes sur votre vélo.
Ça. C'est ça, donc c'est déjà une grosse préparation en amont,
ouais.
Pour choisir la route la plus rapide. C'est pas forcément la route la plus courte, parce que la route la plus courte, souvent on prend du dénivelé, on ouais. prend des cols, et donc là il faut essayer de trouver le juste milieu entre peu de dénivelé et peu de distance, donc ouais. c'est assez tactique, mais c'est ça qui rend la course encore plus excitante.
Et pour aussi donner un peu une mesure de l'exploit, ou en tout cas de la force, ou en tout cas de la maîtrise que vous avez, ces 5000 km que vous avez fait sur la TCR la dernière, vous les faites en à peine un peu plus de 10 jours, c'est ça?
Ouais, en 10 jours et 16 heures, donc ça fait un peu plus de 450 km par jour, ça doit être 460 ou quelque chose comme ça. Donc
460 km par jour. Comment ce de... Alors j'imagine qu'il y a aussi beaucoup de préparation en amont, c'est ce que vous disiez, mais ce que j'ai envie de savoir, c'est comment se décompose 24 heures dans une, quand vous êtes sur une course comme la TCR. Ouais. Vous pédalez combien de temps? Vous reposez combien de temps? Vous mangez sur le vélo? Comment? Ouais, une journée type, c'est quoi?
C'est souvent des journées types, hein, ça se ressemble un peu tous les jours. Moi je vais me coucher, je vais commencer par la nuit, je vais me coucher environ vers 23h, 23h30. Et ensuite je mange, je vais acheter déjà tout ce qu'il faut pour bien manger le soir. Donc c'est souvent des sandwichs, du pain, des choses un peu complets, glucides, protéines, lipides, pour pouvoir se régénérer durant la nuit. Et ensuite, je vais me laver, je lave mes affaires, et ensuite je vais me coucher et je mets un chronomètre de 5 heures pour la nuit. Et puis ensuite, je me réveille, je m'habille, je sèche un peu mes affaires qui
sortent de la machine.
Pas eu le temps de sécher durant la nuit avec un sèche-cheveux ou d'autres solutions. Et ensuite, je repars. Et puis là, on est parti pour une journée de 17-18 heures de vélo. Sans compter les pauses pour aller chercher à manger. Oui.
C'est des pauses de 5-10 minutes, quoi. C'est des arrêts au stand.
Ouais, c'est ça, c'est 10 minutes. À chaque fois, je regarde un petit peu mon compteur compte les pauses, et à chaque fois, c'est environ 10 minutes d'arrêt à chaque fois.
Ce que vous ne dites pas, parce que vous dites je vais me coucher, je lave mes affaires, etc. Ce que vous ne dites pas, vous le dites un peu, parce que vous dites je vais me coucher vers 23h et puis je mets un réveil quelques heures après. C'est que vous, votre choix qui est très différent de l'ensemble, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, des compétiteurs, c'est que vous choisissez de dormir à l'hôtel, hein.
Voilà, c'est ça. Moi, je choisis de dormir à l'hôtel. J'ai essayé de dormir en bivouac pour savoir si c'était encore plus rapide. Bien sûr, c'est plus rapide dans l'exécution, mais au final, on récupère beaucoup moins sur le long terme. C'est quand même 10 jours de vélo, donc il faut penser long terme, il faut penser récupération. Et au final, dormir à l'hôtel, on a une meilleure qualité de sommeil. Et ouais. C'est hyper important quand on a très peu de temps pour consacrer au sommeil. Donc il faut qu'il soit le plus qualitatif possible.
Et est-ce que ça veut dire aussi que le fait de choisir de dormir à l'hôtel, c'est aussi une façon pour vous de voyager plus léger? Parce que c'est-à-dire que vous n'avez pas à transporter votre sac à dos, votre sac de couchage ou votre tente, etc.
Oui, c'est ça. C'est aussi un bonus aussi d'être un peu plus léger, même si pour moi le poids c'est pas forcément le plus important dans ce genre de course. Il faut d'abord penser confort et ensuite penser au poids, mais c'est sûr que ça c'est un point non négligeable, mais bon, ça dépend des personnes, ça dépend des angles.
En tout cas, vous, c'est ce qui vous fonctionne. Et vous me tendez une perche magnifique, parce que vous parlez, le poids n'est pas nécessairement ce qui est le plus important. Je sais que vous roulez sur un vélo artisanat français qui est Cyclomeral, et on salue Émeric Lebrun qui pilote cette marque et Sifac. C'est un vélo en acier, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus léger non plus. Malgré tout, c'est votre choix parce que c'est selon vous, ou en tout cas pour vous, vous préférez privilégier le confort?
Oui, pour moi c'est beaucoup plus important que n'importe quoi. Pour moi c'est vraiment la chose la plus importante, le confort dans une course d'ultra distance, parce que voilà, les douleurs arrivent très vite, et ouais, il faut être être en bonne santé ouais. à la fin. Et pour moi, ouais, l'acier, c'est vraiment ça que je retrouve. C'est vraiment le confort et aussi la robustesse. Ouais. Pour moi, c'est aussi important. Parce que on va dans des chemins souvent très très engagés, parce que le parcours, enfin la transcontinentale nous amène dans des parcours obligatoires qui sont souvent du gravel et des cailloux. Je sais que moi j'ai déjà cassé des vélos carbone rapidement en un rien de temps. Donc
c'est aussi une façon. Ça veut dire aussi que le choix de l'acier, c'est aussi une façon pour vous de pédaler d'une manière un peu plus sereine et d'appuyer sur les pédales comme vous avez envie et de passer à la vitesse que vous voulez parce que vous avez une entière confiance en votre matériel.
Oui, s'est vu déjà cette année à chaque fois dans les parcours obligatoires justement où il y a eu le plus de gravel, j'ai été le premier. Il y a eu un classement sur tous les parcours obligatoires et j'ai pu être le premier sur chacun des parcours. Et pour moi, c'est vraiment cette sérénité qui me permet de lâcher un peu plus les freins. Dans le gravel.
Est-ce que vous diriez, Victor, que vous êtes une allégorie de la fable de la fontaine, du lièvre et de la tortue? Ça sert à rien de partir tout super vite. Il faut surtout gérer l'effort sur les 10 jours ou les 15 jours quand la course dure 15 jours.
Ouais, c'est sûr, c'est vrai. Sur des courses comme ça, en fait, ça part vraiment très très vite. Ouais. Le premier jour, les deux premières heures, j'étais très loin. J'étais à la 50e place, mais je suis vite revenu juste en gérant mon effort. Et puis même dans les premiers jours, j'étais cinquième. Ouais. J'étais jamais en première position. Je faisais attention à mon sommeil. Je savais que en fait avoir un peu plus de sommeil, ça me permettait au moment décisif de pouvoir faire une nuit blanche, par exemple, pour aller prendre ce ferry qui a été décisif justement. J'étais en tête vraiment dans les trois derniers jours.
Dans les trois derniers jours. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, il est 14h18, on écoute Rayon Libre. Enfin, vous écoutez Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM. C'est un Rayon Libre qui va ultra loin, ultra vite. Évidemment, je vais tenter de tenir la distance. Pas de pause musicale, puisqu'on l'a faite au lancement. Vous avez écouté See It As A Sign de Carlita and MYD. On est toujours avec Victor Bozzoni, le nouveau petit prince de l'ultracyclisme. Quand même, ce que j'ai envie de vous demander, Victor, là, c'est un peu ce que vous disiez. Enfin, ça fait partie un peu des questions que je vous posais sur quand vous êtes sur votre vélo. Ça veut dire que toutes les micro ou petites ou grandes décisions que vous devez prendre sur trouver un hôtel, où s'arrêter, gérer l'effort de je m'arrête. Est-ce que je m'arrête à 23h ou à minuit ou est-ce que je m'arrête plus tôt, etc. C'est des décisions que vous prenez sur le vélo. Ça veut dire que sur le vélo, en même temps que vous pédalez, vous appelez l'hôtel où vous avez prévu de vous arrêter en disant j'arrive plus tôt, plus tard, etc.
Ouais, c'est exactement ça. Je prends des décisions au dernier moment, souvent vers 18h, juste avant que la nuit tombe. Et en fait, ouais, ça me permet de pouvoir m'adapter à toutes les situations, parce que je peux pas prévoir où je serai une semaine à l'avance. Oui. Et en plus, c'est interdit. On n'a pas le droit de réserver un hôtel.
Vous n'avez pas le droit d'avoir c'est quoi le délai entre le moment où vous avez le droit et pas le droit? C'est 24 heures?
Non, c'est le départ de la course.
Ah, c'est au départ de la course. Donc, il n'y a aucun arrêt prévu avant le départ de la course.
Voilà, c'est ça.
OK. Et pareil, vous êtes arrivé un peu par surprise dans le décor et l'univers de l'ultra-distance. Vous avez commencé quand?
L'ultra-distance, j'ai commencé à la fin de ma carrière d'élite. J'ai commencé en 2022 par des petites pas des courses, par des sorties solo, juste pour me faire plaisir.
Ouais.
Et puis ensuite, j'ai pris goût à la longue distance et j'ai voulu m'inscrire en 2023 pour la Northscape, une course de 4400 km. Ma première course d'ultra longue distance, j'ai voulu directement faire un grand voyage.
Ouais.
Et ça m'a encore plus donné des idées et je me suis senti vraiment bien dans cette discipline, une discipline qui me correspondait.
Parce que ce que vous êtes en train de nous dire aussi, avant vous étiez donc coureur élite, ça veut dire vous couriez sur des courses en route, hein, c'est ça, et le niveau élite, juste pareil pour les auditeurs auditrices, pour qui situe par rapport à Juliana Alaphilippe qui vient de gagner une étape à Québec, c'est quoi?
Je pourrais dire que c'est la quatrième division, on va dire.
Ouais.
C'est juste avant les professionnels. C'est la dernière marche avant de passer professionnel. J'étais en National 1 au SCO Dijon, puis au CC Etup. Et ensuite, on m'a détecté un problème génétique qui faisait que je ne produisais que très peu de testostérone. Et j'ai dû, pour ma santé, pour mon futur, faire un traitement qui m'a duré 6 mois. Et ensuite... c'était fini, mais du coup, ça m'a permis aussi de passer à autre chose, de tourner la page, et c'était ce dont j'avais besoin, et j'ai découvert quelque chose de meilleur pour moi.
De meilleur pour vous. Est-ce que, c'est aussi une autre question, donc traverser l'Europe, par exemple, ou la North Cape, quand on est sur le vélo, qu'on pédale, allez, 16, 17, 18 heures par jour, donc ça veut dire que vous pédalez aussi la nuit, est-ce qu'il n'y a pas une frustration de traverser tous ces paysages, tous ces lieux, tous ces endroits, sans forcément prendre le temps de profiter, de regarder, ou finalement vous arrivez à vivre l'instant ?
Ouais, j'arrive quand même à vivre l'instant, même si quand on y passe, on aimerait des fois peut-être rester un jour ou deux pour pouvoir voir certains monuments ou pour pouvoir explorer encore plus en profondeur certains paysages. Mais au moins, on se dit que ça nous donne des idées pour le futur, pour pouvoir y revenir en prenant un peu plus le temps. Mais souvent on savoure quand même. Je me rappelle que la North Cape, c'était les derniers kilomètres, même si j'étais dans la souffrance, j'étais émerveillé par tout ce qui se passait autour de moi, ça reste de très grands souvenirs, et c'est une des raisons pourquoi on fait ça.
Pourquoi on repart? Et alors, c'est intéressant aussi, vous dites la North Cape, les derniers kilomètres, j'étais dans la souffrance, ça veut dire que quoi, vous gérez l'effort pour être dans la souffrance, pour vous citer, au dernier moment?
Non, c'était pas du tout prévu. Justement, en ultra distance, on essaye de rester dans une zone assez supportable, assez agréable.
Oui.
Et là, c'était vraiment des blessures qui apparaissaient. C'était ma première course d'ultra distance, et souvent, on part un peu la fleur au fusil, et là, j'avais pas des bons réglages au niveau de mon vélo, et j'ai terminé avec des blessures aux genoux, aux deux genoux, et j'ai fini vraiment en souffrance parce que je pouvais plus, je pouvais plus pédaler sans avoir mal.
Donc c'était pas que musculaire, c'était aussi articulaire ou ligamentaire. Impossible de vous avoir aujourd'hui avec nous et de pas évoquer Sofiane Sehili, qui est en prison en Russie actuellement. Il était en passe de réussir à battre le record de la traversée Europe-Asie. Est-ce que ce genre de record ou ce genre d'aventure, ça vous intéresse, ou pour l'instant vous préférez vous cantonner à des courses qui sont entre guillemets encadrés et organisés?
Pour l'instant, je veux y aller quand même étape par étape. Bien sûr que ce genre de record, ça me fait rêver parce que c'est encore plus grand que ce qu'on peut faire. Mais ce qui s'est passé avec Sofiane, ça nous refroidit. On sait que au niveau géopolitique, c'est pas hyper favorable à faire ce genre de record, à faire un record du Tour du Monde. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire dans le futur, mais il faut attendre la fenêtre la plus favorable.
Ouais.
Et là, c'était un peu risqué de sa part.
Mais c'était peut-être le moment pour lui aussi, dans sa préparation, dans son mental, en fait, c'est compliqué. Après, il se trouve qu'aujourd'hui il est là-bas. En tout cas, on pense à lui fortement et à ses proches, à Fanny aussi. Et puis, j'ai envie de dédier cette émission à Sofiane, si ça peut lui mettre un peu de baume au cœur. Vous écoutez Rayon Libre, vous êtes sur Cause Commune 93.1 FM. On est avec Victor Bozzoni, donc le nouveau petit prince de l'ultra distance. On va s'écouter la chronique d'Abel Guggenheim, qui est notre grand prince à nous, qui lui aussi tient la distance. On se retrouve dans 3 minutes. Le temps de la chronique d'Abel, Victor. Réfléchissez à la réponse à ma dernière question que je vous poserai juste après. Quel est le meilleur conseil que vous me donneriez à moi si jamais, sait-on jamais, je me lançais dans une épreuve d'ultra-distance et que j'avais envie comme simple ambition d'être déjà finisher, ce serait pas mal. Vous avez 3 minutes pour réfléchir à cette réponse, Victor. Pour l'instant, on écoute Abel Guggenheim, et auditeur du Tritz, je vous invite à écouter Abel parce qu'à un moment donné dans sa chronique, il va vous donner son numéro de téléphone. Abel, c'est à toi.
Bonjour. Je vous parlais la semaine dernière, avec un brin de moquerie, de ces cyclistes qui se plaignent que la belle piste cyclable qu'ils et elles empruntent s'arrête sans réseau au milieu de nulle part, et qui se plaindront demain, lorsque cette piste aura été prolongée conformément à leurs souhaits, parce qu'il en sera de même à l'endroit où cette piste prolongée s'arrêtera provisoirement, avant d'être prolongée plus tard encore un peu plus loin. Je voudrais aujourd'hui généraliser cette observation. On vient enfin, dans les quelques années qui viennent de se passer, de reconnaître le vélo, auparavant juste considéré comme outil de loisir ou de pratique sportive, comme un réel mode de déplacement susceptible de répondre de façon non marginale à la demande de déplacement dans de nombreux cas où il n'était auparavant pas tenu pour une alternative sérieuse. Des collectivités, et on le verra sans doute encore plus à l'occasion des élections municipales de l'année prochaine, lui consacrent des efforts, du personnel, des projets, des budgets. Des hommes et des femmes qui n'auraient, il y a peu, jamais envisagé de rejoindre à vélo leur lieu de travail, achètent un vélo, s'équipent, réorganisent leur logement et l'emploi de leur temps. La demande croît très rapidement, à tel point que l'offre d'infrastructures, de stationnement, de services, a de la peine à suivre. Qu'il et elle se soient auparavant déplacés en automobile ou en transport en commun, les personnes qu'ils font aujourd'hui à vélo s'étaient habituées à bénéficier d'une organisation homogène et cohérente, couvrant, même si souvent de façon imparfaite, leurs besoins. Elles ne comprennent pas ou ont du mal à admettre qu'il n'en soit pas immédiatement de même avec leur nouveau mode de transport. Un système vélo est en train de se mettre en place avec des infrastructures, des services, etc. Mais il mettra du temps à atteindre le niveau de ce qui est aujourd'hui, depuis des années, le système automobile avec ses matériels, ses réseaux de revendeurs, ses garages, ses stations-service et toute l'organisation commerciale et administrative qui l'accompagne. Cette impatience me rappelle le lancement de Vélib en 2007. Avant ce lancement, il était fréquent de lire des articles se moquant des pistes cyclables, décrites comme vides, construites par Jean Tiberi puis par Bertrand Delanoë. Et juste après, on retrouvait dans les mêmes journaux des articles critiquant la ville de Paris pour son manque de prévoyance, parce qu'elle proposait aux Parisiennes et aux Parisiens des vélos sans qu'existe auparavant un réseau complet de pistes cyclables permettant de les utiliser partout dans la ville. Mais ce n'est pas dans ce seul domaine que ce phénomène se produit. Il en était de même, dans mon enfance, lors du développement du téléphone en France. Il y avait des listes d'attente de plusieurs mois pour obtenir une ligne. Je me souviens d'un retour de vacances où nous avons découvert ce nouvel objet noir avec un cadran posé sur le bureau dans le salon. Je me souviens même de notre numéro avec des lettres et des chiffres, Turbigo 2891. À lundi prochain.
Merci beaucoup Abel, vous êtes toujours à l'écoute de Rayon Libre avec Victor Bozzoni. Victor, quel est le meilleur conseil que vous me donneriez si jamais, comme je disais, sait-on jamais, je me lançais dans une épreuve d'ultra distance et que j'avais comme simple ambition d'être finisher?
Moi je dirais un conseil qui m'a beaucoup aidé, qui m'a, entre l'année dernière où j'ai eu un gros échec sur la transcontinentale et cette année où j'ai pu avoir cette victoire, c'est d'essayer de toujours voir le positif, même lorsque vous pensez que le sort s'acharne contre vous, quand vous avez des crevaisons,
quand c'est plus dur que prévu, quand il pleut, que le temps est dégueulasse.
Il faut toujours se dire que
Le plus dur est derrière.
Essayer de réfléchir à comment rendre les choses meilleures et rester ouvert à toutes les possibilités qui restent encore devant vous, tout ce qui peut.
Je suis obligé de rendre l'antenne. Merci beaucoup, Victor, auditeur, auditrice. Ça y est, ce Rayon Libre est terminé. Si vous avez suivi aujourd'hui, j'inaugure ma nouvelle conclusion en espérant qu'elle vous plaît. Le vélo est une chance. Ce serait dommage de ne pas l'enfourcher. Merci beaucoup, Victor, et je vous dis à la semaine prochaine. Rayon Libre.